Club Pharma sur Nutri Radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Club Pharma, votre émission dédiée au secteur de la pharma. Comme son nom l'indique, on a été chercher très loin. Vous savez que ça a été des heures et des heures de brainstorming cet été, cette histoire. Donc Club Pharma, c'est votre émission depuis la rentrée qui vous est proposée, voilà, chaque mardi entre 11h et midi, un acteur du secteur de la pharma de près, de loin, mais pas de très très loin. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un acteur de la pharma, mais c'est quelqu'un qui travaille avec la pharma en lien avec le monde de la pharmacie. Une avocate, est-ce qu'on dit avocate d'ailleurs? Bonjour Emma.
Bonjour, on peut dire avocate, pas de problème.
Bien, donc Emma Favre-Rochex, vous êtes avocate en droit des sociétés et transmission d'entreprise. Parmi vos clients, il y a beaucoup de pharmacies. Et si vous êtes notre invité aujourd'hui, merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes notre invité aujourd'hui, c'est que vous avez rédigé un petit post LinkedIn qui a fait réagir. Vous abordez une proposition du député Cyril Isaac Sibille d'interdire les groupements de pharmacies. Donc une idée qui a suscité de nombreuses réactions. Pourquoi cet amendement vous semble-t-il étonnant et potentiellement problématique pour le secteur?
Alors, il me semble d'abord étonnant parce que pas grand monde ne l'avait vu venir, y compris les acteurs principaux intéressés, à savoir syndicats de pharmaciens et représentants des différents groupements. Pourquoi il me semble problématique? Parce que, à mon sens, il est complètement, il est fondé sur des motifs qui sont complètement décorrélés de la réalité de terrain, que sont les deux principaux motifs suivants, à savoir premièrement que, d'après Monsieur le député, les groupements favoriseraient les grandes officines au détriment des petites. Ça, c'est son premier argument. Et le second argument est que les groupements seraient finalement une sorte de porte ouverte à la financiarisation du secteur. Je cite par là les motifs qu'il invoque au soutien de son amendement. Et c'est, à mon sens, complètement méconnaître à la fois la variété, la diversité des groupements et peut-être éluder le dispositif législatif et réglementaire qui existe déjà et qui permet de se prémunir contre cette financiarisation du secteur.
Alors, financiarisation du secteur, quel est aujourd'hui le dispositif qui permet de se prémunir contre cela?
Alors aujourd'hui, on a principalement deux dispositifs. Un qui est, on va dire, qui résulte de la simple lecture des textes du Code de la santé publique, puisque ne peuvent être au capital de pharmacie d'officine que des pharmaciens directement et indirectement, donc via des sociétés holding. Il ne peut pas y avoir de détention capitalistique par des acteurs financiers, comme on peut le voir chez d'autres professions réglementées de manière minoritaire. Et il y a au-delà des textes qui sont plus généraux, notamment sur le principe d'indépendance des pharmaciens, qui constitue une sorte d'ultime recours en jurisprudence pour essayer de préserver ce secteur qui est un secteur indispensable de la santé publique, de cette financiarisation. Et en fait, le député nous dit que finalement les groupements qui sont généralement indirectement des financeurs dans les opérations d'acquisition d'officines, notamment via des prêts qu'on appelle des boosters d'apport. Ce député considère que c'est finalement un risque de financiarisation supplémentaire, sans tenir compte donc à la fois de ces garde-fous que j'évoquais et également de la forme juridique que vont prendre ces fameux boosters et encore une fois de la variété de ceux-ci.
Emma Favre-Rochex, notre invitée aujourd'hui, vous êtes donc, on le rappelle, avocat en droit des sociétés et transmission d'entreprise. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de Club Pharma sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Club Pharma sur Nutri Radio.
Notre invitée aujourd'hui, c'est Emma Favre-Rochex, avocat en droit des sociétés et transmission d'entreprise. Pas mal de ses clients sont des pharmacies, mais vous accompagnez pas seulement les pharmacies. Là, en l'occurrence, on vous a invité, vous avez eu la gentillesse de nous répondre favorablement en raison de ce post que vous avez rédigé sur LinkedIn, vous réagissez, vous avez réagi sur la proposition du député Cyril Isaac Sibille d'interdire les groupements de pharmacies. Pour vous, voilà, ça pose un problème pour le secteur. Déjà, puisqu'on est sur Nutri Radio, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires, vous, en général?
Non, mais il faudrait peut-être que je m'y mette en prévision de l'hiver.
Oui, parce que vous êtes je ne l'ai pas dit, mais vous êtes basé sur Lyon. Hein.
Absolument, oui.
Ça veut dire que tous vos clients ne sont pas forcément de la région lyonnaise ?
Ah non, pas du tout. Alors, j'ai des clients, on va dire, sur la grande région lyonnaise essentiellement, ainsi qu'en Bourgogne. J'ai accompagné plusieurs pharmaciens dans des projets d'installation ou de réinstallation dans la région de Bourgogne. Mais il m'arrive d'avoir des clients un petit peu partout en France. Il y a quelques années, j'avais eu une opération dans l'Ouest, dans le Maine-et-Loire. Je peux avoir des clients également en région parisienne. Voilà, je me déplace quand même beaucoup dans mon métier.
Alors, interdire les groupements de pharmacies pourrait avoir, selon vous, aussi un impact économique pour les petites pharmacies. Est-ce que vous avez un exemple concret ?
Ah oui, bien sûr, j'ai un exemple concret. Donc, en fait, dans le cadre de mon accompagnement aux pharmaciens dans les projets de reprise d'entreprise, on étudie avec bien évidemment en lien avec l'expert comptable, quel va être le prix possible de la pharmacie, quel prix finalement est finançable par l'acquéreur. Et on a pour cela différents indicateurs, et un des indicateurs est la marge commerciale. On constate que les pharmacies, les petites officines qui ne sont pas du tout dotées de groupements, ont tendance à avoir une marge qui est inférieure aux statistiques du secteur, ce qui veut dire qu'elles achètent moins bien, donc plus cher que leurs confrères qui sont adhérents de groupements, puisque les groupements, et encore une fois, je l'ai dit en début d'émission, il y a une grande variété de groupements et une grande variété de fonctionnement. Ce sont quand même initialement des organismes de droit privé qui vont avoir pour objectif de fonctionner un petit peu comme des centrales d'achat, et donc de mutualiser la force de frappe dans les achats pour obtenir de meilleures conditions financières pour ces officines, ce qui leur permet d'avoir une marge qui est un petit peu meilleure.
Très bien. Alors, au-delà des marges, il y a aussi l'aspect de la gestion des risques pour les pharmacies. Est-ce que les groupements apportent également des solutions pour cela ?
Alors oui, à mon sens, à différents niveaux. Premièrement, peut-être au niveau des stocks, puisque adhérer à un groupement va permettre, à mon sens, comme je le disais, de mutualiser les achats, mais également de ne pas forcément faire peser le risque du stock sur les officines. Et en termes de gestion, donc encore une fois, il y a une grande variété de groupements, mais pour certains, ils vont au-delà de la simple centrale d'achat et ils offrent des services complémentaires au profit des pharmaciens pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier.
Oui, et puis aussi des formations, par exemple, des conseils marketing.
Bien sûr. Absolument, absolument. Aujourd'hui, il y a aussi des modèles qui sont extrêmement intégrés, effectivement, avec des formations. J'ai vu il y a quelques jours, et j'ai trouvé l'idée fort intéressante d'un groupement qui s'est associé, ou en tout cas en partenariat avec une école de commerce Audencia, pour une formation à l'installation, ce que j'ai trouvé personnellement fort intéressant, puisque peut-être qu'un pharmacien qui a un projet d'installation, a une envie entrepreneuriale, mais n'est pas forcément formé sur tous ces aspects annexes. Et quand on discute avec des étudiants en pharmacie, on se rend compte qu'en réalité, ils sont quand même relativement peu formés à tous ces aspects annexes, que sont le marketing, que sont la construction d'une marque entrepreneuriale, que sont les aspects RH, management, juridique, financier, etc.
Alors, dans votre poste, vous parlez également de la solidarité dans le secteur. Comment ça fonctionne précisément, cette solidarité locale entre les pharmacies ?
Bien, elle, à mon sens, elle fonctionne de plusieurs manières. Elle fonctionne de manière historique avec des mécanismes de rétrocession quand il y a des problématiques de stock. Elle est aujourd'hui un petit peu plus structurée via les groupements. Parce que, alors que le député semble penser que le groupement, c'est nécessairement des groupements qui sont adossés à des financiers, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de groupements qui sont sous forme coopérative, ce qui veut dire que finalement, ce sont les pharmaciens eux-mêmes qui se structurent en groupement pour certains, avec aujourd'hui des centaines, voire des milliers de ce qu'on appelle de sociétaires, c'est-à-dire de pharmacies membres. C'est finalement l'outil juridique qui permet le mieux peut-être d'acter cette coopération.
On marque une dernière pause et on va se retrouver avec vous, Emma. Merci d'être avec nous encore. Je sais que les avocats sont très occupés, mais vous avez pris le temps de venir sur Nutri Radio. On vous remercie. Et donc, le retour de cette émission avec vous, c'est juste après ceci.
Club Pharma sur Nutri Radio.
C'est toujours bien d'inviter des avocats, je me dis, on sait jamais, hein, on peut en avoir besoin. Fabrice, si un jour Nutri Radio devient une multinationale, je ferai peut-être appel au maître Emma Favre-Rochex, qui est avocat, donc avocate en droit des sociétés et transmission d'entreprise. Vous êtes toujours là, maître ?
Je suis toujours là, je vous écoute avec attention.
Eh bien écoutez, merci, merci. Alors, interdire les groupements de pharmacie, Michael Mouche a piqué la députée Cyril Isaac Sibyl, pourquoi cette proposition? On va d'ailleurs y revenir là-dessus, parce que souvent, un député, il sort pas ça, voilà, il dit pas, tiens, le matin, je vais faire ci, il est conseiller, il y a des lobbyistes, on sait qu'ils sont là, derrière. De qui vient cette idée en vérité? Est-ce que vous avez une idée, maître?
Alors moi, j'ai pas vraiment d'idée. Moi, je fais pas de politique. Hein. Mon métier, c'est de faire du droit.
Sans rentrer dans la politique, pardon, je vous interromps. Mais voilà, on sait qu'un député, il va mener des campagnes, des combats, parce qu'on vient, il consulte, il reçoit des gens qui eux sont partie prenante pour tel ou tel ou tel secteur. Là, après, à qui profite le crime entre guillemets? À qui profite cette proposition?
Ah, c'est vrai que c'est une excellente idée. Alors, je ne sais pas si vous avez lu sous mon poste, mais un certain nombre de professionnels du secteur et d'autres secteurs ont réagi. Certains émettent l'hypothèse que finalement, cette interdiction de groupement aurait pour effet de profiter indirectement à la grande distribution, en tout cas sur la partie en réalité non réglementée de l'activité. Donc, c'est essentiellement ce qui va être de la parapharmacie et qui permet d'avoir de bonnes marges, en disant bah tout cela va pouvoir être commercialisé dans les parapharmacies et les grandes surfaces. Et comme les pharmaciens ne bénéficieront plus de la force de frappe des réseaux, par définition, ils auront de moins bonnes conditions d'achat, donc ils auront de moins bonnes conditions de vente. Bon, c'est peut-être une des hypothèses. Au-delà, moi, je pense que le député a peut-être été inspiré ou a eu cette réflexion approfondie du fait d'un arrêt de la Cour de cassation qui date d'il y a quelques semaines, où on avait une hypothèse où finalement, un pharmacien qui était adhérent d'un groupement s'était vu octroyer par le fameux groupement, on va dire ce qu'on appelle une sorte de prêt, juridiquement c'est ce qu'on appelle un emprunt obligataire, et s'était trouvé dans la difficulté pour le rembourser. En l'occurrence, c'était un groupement qui n'était pas un groupement coopératif, et donc finalement, la question qui était posée à la Cour de cassation, c'était de savoir est-ce que l'emprunt obligataire est ou non assimilé à des actions, et donc est-ce que finalement il faut les interdire? Et la Cour de cassation dit non, l'obligation c'est du prêt, donc ça ne rentre pas dans l'interdiction dont je parlais en début d'émission de détention du capital par des non-pharmaciens. Et peut-être que cet élément-là l'a fait réagir, puisque c'est peut-être le versant le moins favorable des groupements, bien évidemment l'objet est détourné de son but initial.
Alors, si cet amendement venait à être adopté, quels seraient selon vous les impacts à long terme pour les pharmacies et les patients?
Alors pour moi, ça va poser au niveau des pharmacies, ça va mettre un coup à leur marge, hein, puisque les dernières statistiques montrent que malheureusement celles-ci sont en baisse, notamment du fait de ce qu'on appelle la hausse des produits chers. Donc vraiment faire fondre leur marge comme neige au soleil. Ça va aussi entraîner de plus grandes difficultés dans le secteur, avec potentiellement des dépôts de bilan. Des difficultés pour des officines, notamment des petites officines en milieu rural, à trouver un repreneur. C'est vraiment ça une difficulté qui est extrêmement prégnante dans le secteur, malgré les tentatives du législateur d'essayer de favoriser ces reprises. Et au-delà, je pense que pour le patient, Il y a également peut-être des risques de rupture d'approvisionnement de certains produits ou médicaments. Et in fine, c'est finalement tout le maillage territorial de la pharmacie qui risque d'être impacté par cet amendement s'il devait être adopté, à mon sens.
Ah, on rappelle d'ailleurs que le député qui a proposé cette loi est médecin de formation. Voilà, la guerre médecin-pharmacien. Sur un plan juridique, comment cet amendement s'inscrit-il dans le cadre légal actuel ? Est-ce qu'il y a des éléments dans le droit des sociétés ou de la santé qui pourraient être utilisés pour contester ou adapter cette proposition ?
Alors, à mon sens, j'ai peut-être déjà évoqué les deux clés précédentes. Est-ce qu'une des solutions, alors il y a différentes solutions qui ont été discutées sous le poste également, et à mon sens la proposition juridique qui est peut-être la plus pertinente, c'est de revenir aux fondamentaux du groupement, qui est quand même à la base fondé sur une idée d'entraide. Un des modèles, c'est effectivement la coopérative, on le voit, et les récents regroupements de groupements, si l'on peut dire, démontre aussi la force de ce réseau coopératif, puisqu'on a une coopérative qui a récemment absorbé un groupement qui était un groupement entre guillemets financier. Donc ça démontre quand même l'efficacité de ce modèle. Il y a une autre piste juridique qui a été abordée dans les commentaires et que je trouve à titre personnel extrêmement intéressante, en tout cas, et ça mériterait qu'on s'y penche. C'est les notions récentes de ce qu'on appelle de raison d'être et de société à mission. Donc c'est un petit peu technique d'un point de vue juridique, mais l'idée, c'est d'avoir des organismes de droit privé dont le seul objectif n'est pas la recherche du profit, qui l'indiquent notamment dans leur statut et qui s'engagent à un certain nombre d'obligations supplémentaires pour tout simplement mettre en œuvre les moyens concrets liés à la réalisation de cette mission. Donc peut-être les groupements avec des raisons d'être ou des groupements à mission, pourquoi pas.
Ah, il y a de belles pistes. C'est vrai que ça a fait beaucoup réagir, hein, ce poste. Est-ce que vous attendiez un tel engouement ?
Clairement pas, clairement pas.
Bon, en tout cas, donc vous appelez un dialogue, hein, plutôt aussi qu'à une interdiction. Est-ce que les professionnels du secteur, ils peuvent influer vraiment sur cette décision ? Quand est-ce que parce que c'est une proposition d'amendement, donc pour l'instant, pas de panique, mais comment ça s'organise en ce moment-là ?
Bah, en ce moment, le projet de loi de financement de la sécurité sociale va être discuté dans le cadre du Parlement. C'est un amendement qui va être abordé parmi les autres. Je pense, en toute objectivité, qu'il a relativement peu de chances d'être adopté. Et statistiquement, on voit qu'il y a peu d'amendements qui sont adoptés, encore que. Peut-être un peu de positif aussi, parce que dans le cadre du plan de financement, du projet de loi de financement, pardon, de la sécurité sociale, il y a d'autres amendements qui ont été proposés par d'autres députés, et notamment un amendement qui est lié à l'aventure Doliprane, si l'on peut dire, et qui va permettre, alors c'est encore une fois un petit peu technique en droit, mais de soumettre à la règle des investissements étrangers en France les projets de cession comme ceux de la fameuse branche Doliprane. Et ça, pour le coup, c'est un amendement qui est plutôt positif, puisqu'il va dans le sens de la protection à la fois du fleuron de l'industrie française et également de protection à la fois des acteurs de la santé publique et en premier lieu les pharmaciens, et également en faveur de la protection du patient in fine.
Emma Favre-Rochex, merci. Vous êtes avocat, on le rappelle, avocate, je sais plus, moi je suis perdu, avocat, avocate, maître, tout change. Mais ce qui est sûr, c'est que votre compétence, elle est présente, droit des sociétés et transmission d'entreprise, avec une appétence pour le secteur de la pharmacie. Donc si vous êtes pharmacien, hein, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, des affaires à vendre, à acheter, je vous invite à vous rapprocher d'Emma Favre-Rochex. Vous avez vu, c'est du sérieux, c'est du solide. Merci d'avoir été présente et de nous avoir apporté cet éclairage tout particulier sur cet amendement qui, même s'il risque de ne pas passer, voilà, il y a pas de fumée sans feu, donc au moins ça permet à tout le monde de rester vigilant. Vous êtes d'accord avec moi, maître ?
Je suis d'accord avec vous et je vous remercie vivement de m'avoir donné l'opportunité de discuter un petit peu plus de ce sujet.
Et vous savez, quand on vient une fois sur Nutri Radio, ça veut dire qu'on a la carte, vous venez quand vous voulez, vous entendez un truc, vous nous appelez et voilà, vous serez la bienvenue toujours sur Nutri Radio. Mais on coupe pas la musique pour vous, mais vous venez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast tout de suite là. Si vous êtes sur le live de Nutri Radio, je la mets en podcast, comme ça vous allez en profiter, vous allez pouvoir l'écouter tranquillement sans interruption. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir Emma.
Au revoir.
Club Pharma sur Nutri Radio.